Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Et bonsoir à toutes et à tous, enchantée de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Alors on change, un rendez-vous mensuel consacré au climat et au développement d'alternatives locales d'adaptation aux crises climatiques. C'est un rendez-vous préparé par l'équipe bénévole d'Alternativa Beaujolais-Saône sur Calade.
Calade 100.9.
Stockage de doudounes et de chaussettes en prévision de la rudesse de l'hiver. Bouclier tarifaire, argent public déployé, mais sans toucher au profit considérable des multinationales énergétiques, comme le rappelle le numéro du magazine Alternative Économique d'octobre, ce genre de palliatif risque de trouver rapidement ses limites. Ce soir, vous l'aurez compris, nous parlons d'un sujet ô combien d'actualité, l'énergie et la crise énergétique. Cette énergie, cette chose qui n'est finalement pas si inépuisable que nos modes de vie sous le glorieuse nous avaient laissé croire, une énergie qui commence à être de plus en plus chère et à devoir être trouvée de plus en plus loin. À l'occasion de la Journée nationale de la sobriété énergétique qui a eu lieu le 24 novembre dernier, rappelons que 5 millions de familles en France vivent dans des passoires thermiques. Devant faire face à des factures énergétiques de plus en plus élevées, juste pour se chauffer, certaines familles ne peuvent pas faire face et tombent petit à petit en précarité énergétique. Ce 24 novembre, Alternativa a signé une tribune « L'hiver arrive, chauffez vos logements, pas le climat » que vous pouvez retrouver sur le site internet ou sur la page de Calade. Une tribune donc avec plus d'une vingtaine de mouvements de la société civile impliqués dans la lutte contre l'éclusion et contre le dérèglement climatique. On avait par exemple la Fondation Abbé Pierre, Greenpeace, Dernière Rénovation, l'Alliance Citoyenne, les Amis de la Terre. Dans cette tribune, nous dénonçons l'inaction gouvernementale pour la rénovation des logements en France. En effet, à l'heure où le gouvernement demande de baisser le chauffage à 19 degrés pour limiter nos consommations d'énergie, ce dernier a fait annuler par le biais d'un énième 49.3 deux amendements nécessaires qui avaient été votés par les députés de droite et de gauche en faveur de l'accélération de la rénovation thermique. À la place, 100 millions d'euros seront donc seulement ajoutés au budget 2023 pour cette politique qui devrait pourtant être une grande priorité du pays. Nous exigeons donc l'engagement d'un budget conséquent. Nous parlons de 5 milliards d'euros supplémentaires par an entre 2024 et 2040 pour pouvoir rendre possible la rénovation globale et la performance de près de 700 000 logements par an. La rénovation thermique doit ouvrir la voie à une vraie politique de transition, mais aussi à une politique ambitieuse pour lutter contre le mal-logement et contre les inégalités sociales. Pour que chacun ait un logement protecteur, pour pouvoir passer l'hiver et vivre dignement. Alors dans ces conditions difficiles, alors que l'énergie coûte de plus en plus cher, qu'elle devient de plus en plus rare, comment faire face individuellement et collectivement? Comment faire la mise en œuvre de cette sobriété dont nous entendons de plus en plus parler? Quelle solution d'adaptation s'offre à nous alors que nous ne sommes pas forcément préparés ni bien aidés suffisamment et que les possibles pénuries risquent de nous impacter toutes et toutes de plein fouet? Que faire pour que les plus fragiles d'entre nous ne soient pas les premières victimes et que les aides existantes soient de plus en plus accessibles? Eh bien, nous en parlerons ce soir en compagnie de trois invités. Nous avons en correspondance Julien Renucci de la ALTE 69. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Vous pilotez le pôle accompagnement des particuliers ainsi que le pôle de l'animation du réseau des professionnels de la rénovation partenaire de la ALTE 69 dont vous nous direz quelques mots dans quelques instants. Et nous accueillons en studio également Pierre Pivetot et Jean-Luc Bazin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes tous les deux membres actifs de Soleil Beaujolais, une association de sensibilisation sur les énergies et une société de production citoyenne de l'énergie solaire.
Calade 100.9.
Pour commencer sur ce thème qui est quand même assez large, on voulait commencer par une petite introduction sur l'importance de la rénovation des foyers. On a souvent entendu dans l'actualité récemment la nécessité de travailler sur l'efficacité énergétique et sur le fait que nos logements doivent être plus performants. Le secteur du bâtiment est de tous les secteurs économiques le plus gros consommateur d'énergie. Et pour faire face et pour répondre à la nécessaire décarbonisation du secteur des bâtiments pour atteindre la neutralité énergétique en 2050, qui est un de nos objectifs au niveau de l'Union européenne et de la France, il va falloir agir sur ce secteur du bâtiment, travailler avec ce secteur du bâtiment qui représente à lui seul entre 17 et 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Je parlais tout à l'heure en introduction du thème de ce soir des passoires thermiques et donc de du nécessaire travail sur l'efficacité. Julien Renucci, comment le secteur du bâtiment aujourd'hui réagit à cet énorme défi? Quels sont les travaux qui sont entrepris pour accroître les performances de nos logements? Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui et quelle est la situation, si vous avez un peu des éléments pour nous dresser un portrait assez rapide de la situation?
Alors, le secteur du bâtiment, c'est vrai qu'il est soumis à une réglementation thermique qui s'adresse essentiellement aux bâtiments neufs et qui est de plus en plus restrictive et qui fait que les bâtiments de demain devront être de moins en moins consommateurs au niveau de leur production d'énergie, mais également aussi de moins en moins consommateurs au niveau de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie contenue dans la production des matériaux, donc de ces bâtiments lui-même. Pour la rénovation, donc là, l'effort, il est à consentir par les propriétaires de ces bureaux, de ces logements, de ces industries. Et c'est un de notre mission à l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, c'est d'accompagner les ménages dans le cadre de la rénovation énergétique de leur logement. Voilà, un petit mot sur l'Agence locale de transition énergétique du Rhône. Nous sommes une association d'intérêt général au service de la transformation énergétique des territoires et on intervient aussi bien avec les professionnels, les collectivités que les particuliers. C'est ce dont je m'occupe et dont je vais vous parler aujourd'hui avec vous. Et voilà, donc on porte une mission de service public, hein, indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux et sans intérêt commercial pour les travaux. Voilà, et on est membre du réseau France Rénov, un réseau national dont on entend parler un petit peu dans toutes les chaînes de radio nationales.
Et vous nous disiez juste à l'instant sur la nécessaire adaptation des professionnels du bâtiment pour ce que vous avez appelé les émissions grises. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les matériaux existants qui nous permettent d'être moins consommateurs de carbone dans le bâtiment?
Alors, si on veut réduire les consommations énergétiques d'un logement, il est donc nécessaire de l'isoler. Et donc là, on dépensera moins pour le chauffage de son logement. Après, si on utilise un matériau qui est un contenu carbone ou un contenu énergétique très important, ça aura un impact plus important sur ces travaux d'isolation. Donc, par exemple, le polystyrène, qui est un matériau à contenu énergétique et carbone assez important, contrairement à des matériaux qui peuvent être issus du recyclage, comme les fibres textiles recyclées qui servent dans l'isolation, ou des matériaux qui sont issus, qui sont biosourcés et qui, eux, ont contribué à stocker du carbone durant leur première vie. C'est par exemple une laine de bois. Voilà.
Et dans ce cas-là, dans le cadre de votre travail à l'agence locale, vous permettez la formation ou en tout cas l'empowerment ou la capacitation des professionnels. Vous agissez aussi avec les professionnels, pas seulement avec les particuliers?
Alors oui, avec les professionnels, on fait deux choses. Hein. C'est-à-dire que le pôle collectivité et professionnel va accompagner un professionnel qui veut agir sur son propre patrimoine et réduire ses consommations d'énergie. Et sinon, ce qu'on fait avec les professionnels, c'est des actions partenariales pour essayer de faire émerger une offre qui répondent à la demande sur laquelle on travaille par ailleurs. Donc, quand on travaille avec des ménages pour les aider à accéder à des aides financières, à faire les bons choix techniques pour isoler leur logement, là, on agit sur la demande. Et quand on agit avec, en essayant de faire émerger des réseaux de professionnels qui sont capables de proposer une offre de rénovation performante, d'utilisation de matériaux biosourcés, etc., eh bien là, on agit plutôt sur l'offre. Donc, notre travail, c'est plus de la mise en réseau. Il peut nous arriver de faire des interventions techniques de formation, mais là, on va le faire avec d'autres administrateurs, d'ailleurs, de l'Agence locale de transition énergétique, qui peuvent être les syndicats, fédérations du bâtiment, comme les fédérations d'architectes, la Fédération française du bâtiment, la FFB ou la CAPEB, par exemple.
Et ces structures aujourd'hui, vous pensez qu'elles sont... Comment elles se situent par rapport à ce défi, justement, d'efficacité énergétique ?
Alors, il faudrait leur dédier une émission à ça et leur demander à elles en particulier. Aujourd'hui, l'enjeu, il est majeur. Il y a un virage à entreprendre, mais il y a surtout aussi beaucoup d'emplois à créer. Je pense que ces filières doivent aujourd'hui faire face à un défi majeur comme dans beaucoup d'autres filières, c'est-à-dire recruter des emplois compétents, former et donc pouvoir fournir une offre professionnelle à la hauteur des enjeux actuels.
On voit bien effectivement que c'est tout un circuit qui doit être repensé et revu pour, j'allais dire, beaucoup plus schématiquement, sortir du béton et aller vers le bois, par exemple, et permettre du coup d'être dans cette transition et dans cette baisse des émissions de gaz à effet de serre sur le bâti. On parle d'efficacité et de rénovation, tout ça est à mettre en parallèle aussi avec la sobriété, la nécessaire changement comportement de chacun d'entre nous à moins consommer. En studio, on est avec vous deux de Soleil Beaujolais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre association de sensibilisation et de production énergétique et comment vous travaillez à sensibiliser les gens à du coup moins consommer ou consommer différemment?
Oui, notre association est assez récente puisque elle a démarré le 30 mai 2020. Mm-hmm. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et on a essayé de prendre les choses par le bon bout. Donc on s'est appuyé sur ce qui existait déjà, et en particulier la stratégie de Négawatt, que certains d'entre vous connaissent sans doute. C'est-à-dire que chronologiquement, on s'est intéressé à la sensibilisation, la sobriété, ensuite à l'économie, et ensuite après à la production. Okay. Par rapport à la sobriété, c'est plutôt le domaine de Pierre qui va vous donner des informations complémentaires par rapport à ce qu'on fait.
Eh bien, en fait, on a commencé par nous-mêmes à faire notre propre bilan carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que le bilan carbone? Eh bien, en fait, ça concerne tous les secteurs de notre vie. Comment on mange, comment on se déplace, comment on se chauffe. Et se poser ces questions-là à travers les outils que nous sont proposés par WWF, vous trouverez un lien sur notre site, eh bien, ça permet de commencer à se mettre en route sur les questionnements. Comment on vit et comment on peut trouver des gestes et des économies dans ce domaine. Et puis après, on a pensé au public, au jeune public, qui seront les futurs citoyens, et puis les gens dans notre communauté de communes qui se posent des questions et qui cherchent des réponses.
Soleil Beaujolais, c'est plutôt vers Belleville et la communauté de communes autour de Belleville.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, Soleil Beaujolais est né d'une volonté politique des élus. C'est très rare. Et c'est suite à plusieurs réunions de sensibilisation dans ce domaine que, en fait, l'association est née en 2021. Donc nous, en fait, en direction du public, on s'est posé la question du jeune public. Et on s'est dit comment trouver un contenu d'animation dans les écoles pour sensibiliser au plus près les enfants. Et en fait, on a inventé un outil qui s'appelle le vélo soleil, qui, en fait, pose la question de l'énergie, mais qui part de l'énergie du corps. Mmh. Et donc, en fait, on fait pédaler les enfants et on leur dit, bah, en fait, c'est pour faire tourner ce vélo, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, ben, ça fatigue. Ah oui, et puis alors, c'est relié, ce vélo, à une boîte qui, où on a mis des ampoules qui sont très consommatrices en électricité. Et donc, plus on met d'ampoules, plus l'enfant commence à fatiguer. Et donc, en fait, en partant de cela, de comment on peut ressentir physiquement la question de l'énergie et comment on peut en avoir ou pas et comment ça dépend de ce qu'on a mangé ou pas, eh bien, on développe toute une stratégie qui permet aux enfants de s'interroger sur comment on s'éclaire, comment on se déplace. Et ça permet une première approche. On a inventé un autre outil. C'est une maquette d'éco-village. Et à travers cette maquette, où d'abord ce sont des ampoules très consommatrices qui sont les vieilles ampoules qui alimentent les petites maisons, mmh. Eh bien, on développe tout un scénario qui en fait, qui est très proche de ce que l'on est en train de vivre. C'est si on n'arrive plus à avoir suffisamment d'énergie, bah, quels sont au niveau d'un village des gestes qu'on pourrait trouver, des choses qu'on pourrait imaginer, et interviennent à ce moment-là les énergies nouvelles, le solaire, l'éolien, etc.
Donc on voit que toutes ces questions de sobriété, ça passe par la sensibilisation et le comportement. Julien, à LTE 69, vous avez aussi tout un panel d'activités là-dessus.
Oui, tout à fait. Alors, on essaye d'informer les citoyens sur ces actions de sobriété. Peut-être on peut se dire, pour rappel, que c'est vrai, la sobriété, c'est des actions qu'on va décider de réaliser par une action individuelle, une décision. Par exemple, si je décide de chauffer mon logement à 19 degrés, c'est un acte de sobriété. Donc, je vais réduire volontairement mon besoin. Et si je décide d'isoler mon logement, c'est que je vais répondre à ce besoin de chauffage d'une manière efficace, puisque j'aurai réduit la demande de chauffage. On accompagne les ménages pour des actions d'efficacité, c'est-à-dire je dois isoler mon logement, par quel bout je le prends, techniquement, comment je monte mon plan de financement, etc. On essaye aussi de les informer sur les actions de sobriété, avec beaucoup d'informations qu'on peut retrouver sur notre site internet. Et on diffuse également, notamment via des relais locaux comme Soleil Beaujolais, des mallettes qui permettent de faire des petits diagnostics chez soi pour, par exemple, identifier d'où viennent les consommations d'électricité avec un énergimètre, etc. Prendre conscience de ces consommations pour pouvoir ensuite appuyer sur un interrupteur et arrêter, par exemple, sa box quand on n'est pas là, etc.
Et tout ça, c'est des comportements un petit peu nouveaux. On a l'impression quand même que depuis quelques années, on a cette conscientisation un peu du public, des gens, de nous, de vous, à faire attention à l'énergie. Est-ce que il y a des publics particuliers qui sont plus réceptifs ou d'autres qui sont plus compliqués à atteindre ?
Alors, c'est sûr que ces injonctions à la sobriété, je pense qu'elles arrivent dans des moments où...
Assez récentes.
Elles posent des questions. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans une situation de précarité énergétique et qui a du mal à joindre les deux bouts et qui a certainement du mal à chauffer peut-être à 19 chez lui, vit cette injonction de sobriété. Il la vit mal, il la vit comme une injustice. Et de notre côté, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement en situation de précarité énergétique, mais qui ne roulent pas sur l'or non plus, et qui le vivent comme une culpabilisation. On me dit toujours à moi, le citoyen, de faire des efforts, alors que d'autres efforts par d'autres personnes ne sont pas consentis par ailleurs. Donc, c'est vrai que notre travail, c'est aussi d'essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça, lorsque c'est possible, parce que...
Oui, c'est pas de votre fait non plus, oui.
Voilà, et j'ai pas les réponses à tout là-dessus. Mais donc, en effet, je pense qu'il y a ce sentiment contradictoire qui est là. Et c'est, nous, on le dit souvent, c'est d'essayer, notre rôle, c'est aussi d'essayer d'apprendre à compter, apprendre à prendre les choses dans le bon bout, sur avoir des éléments factuels. Hein, mmh. Voilà. Mmh. Donc, oui, voilà, pardon, allez-y.
Non, je voulais poser la question à Soleil, puisque Soleil Beaujolais, vous faites aussi beaucoup de sensibilisation. Vous avez les outils donc, qui peuvent, que vous développez en collaboration avec la LTE ou que vous avez récupéré de la LTE.
Oui, il y a quelque chose d'extrêmement précieux que nous a passé Jessica Pagès de la LTE 69. C'est cette fameuse mallette.
Dont Julien vient de nous parler,
oui,
un peu.
Et cette mallette, en fait, la première chose, c'est que l'énergie, l'électricité, par définition, ça ne se voit pas. Après, on voit la facture, mais ça ne se voit pas. Et en fait, il y a un outil qui est tout bête, c'est
vous l'avez en studio,
ce wattmètre. Ce wattmètre permet à chaque citoyen de voir ce que consomme son frigo réellement, ce que consomme son congélateur.
Donc, je décris un petit peu, c'est comme une prise, une multiprise. Enfin, là, donc, vous la mettez sur le secteur et vous branchez l'appareil dont vous voulez mesurer la consommation.
Voilà. Et donc, ça mesure à la fois l'ampérage, mais aussi la consommation. Mm-hmm. Et puis, si, le coût.
Mm-hmm. D'accord.
Et en fait, c'est un outil visuel. Donc, par exemple, lorsqu'on fait des animations publiques ou scolaires, on utilise ça avec les outils quotidiens. Le grille-pain, la radio, et tout ce qu'on utilise au quotidien. Et mine de rien, c'est hyper efficace parce que c'est là qu'on se rend compte des appareils qui sont consommateurs.
Et l'éveil aussi en particulier, on ne se rend pas compte vraiment. Ça commence à venir, mais la conscience de ce que consomme une veille, ça peut arriver facilement dans une maison. Maintenant, avec tous ces appareils qu'on a électriquement, ça peut être pas loin de 20% de la consommation générale d'un ménage.
Ok.
Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Guerre mondiale nucléaire, où les enfants d'Adam et Ève s'entreturaient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre, qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever, un seul objectif en tête.
Et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
Niquons la planète.
Fais le mur à terre.
Niquons la planète.
c'était Niquons la planète de HK que nous venons d'écouter. On poursuit cette discussion sur l'énergie et sur les rénovations thermiques et sur d'autres types d'énergie. Je voudrais enchaîner sur le pouvoir local, l'agir local pour la rénovation de son foyer. À la LTE 69, les particuliers peuvent vous contacter et peuvent travailler avec vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Quelles sont les aides ou les appuis qu'ils peuvent obtenir de votre part pour essayer de réduire un peu le coût de leur facture et vivre moins dans des passoires thermiques?
Alors, ce qu'ils peuvent attendre de notre part, déjà, c'est de l'information. En se rendant sur notre site alte69.org, il y aura beaucoup d'informations sur le logement, qui est notre spécialité, les énergies renouvelables, l'isolation du logement, les aides financières. Ils peuvent également nous contacter par téléphone toute la semaine, du lundi au vendredi, pour parler à un conseiller et éventuellement obtenir un rendez-vous. Et ils peuvent, pour certains également, bénéficier de ce qu'on appelle du conseil renforcé. C'est un accompagnement dans la durée qui va pouvoir permettre de répondre à des questions techniques pour savoir comment agir sur son propre logement. Donc, quel choix faire en matière de travaux. Alors, nous, on ne fait pas des travaux, hein, mais on va aider le ménage à faire les bons devis, à choisir les bons travaux vers lesquels s'orienter et à monter, bien sûr, un plan de financement parce que ces travaux, il faut les planifier, ça coûte cher. Il y a des aides financières à obtenir qui sont assez complexes. Hein. Il y a des aides nationales, il y a des aides locales qui viennent de différents financeurs. Mm-hmm. Et voilà un petit peu en quoi va consister notre travail.
Et comment on devient, on passe un peu d'un statut à un autre, par exemple, comment une personne, enfin un foyer, va pouvoir passer de cet accompagnement un peu plus sur le long terme ou comment se fait cette démarche-là?
Alors c'est vrai que ça va dépendre du projet beaucoup et puis ça va dépendre aussi du ménage. Par exemple, il y a des ménages qui nous appellent, qui sont locataires d'un appartement, qui aimeraient installer des énergies renouvelables. Ils se disent, j'ai envie de faire ma part. Là, ça va être un peu compliqué et on va directement les renvoyer vers des associations citoyennes comme Soleil Beaujolais avec nous aujourd'hui pour essayer d'investir dans des énergies renouvelables aussi. Différemment. Et puis, il y a par exemple un ménage qui vit dans un logement qui a été construit il y a 5 ans et qui se dit, mais là, il faudrait que j'agisse sur mon logement. Il a très peu d'économies d'énergie à faire puisqu'il est dans un logement relativement performant. Mm-hmm. Et il peut y avoir des ménages qui, eux, sont en pleine acquisition d'un logement qui est une passoire thermique et qui, là, savent qu'ils vont faire des travaux, ne savent pas par quel bout le prendre. Typiquement, notre conseil sera d'autant plus urgent et efficace à être amené tout de suite, dans la durée, pour faire les bons choix. Voilà, pour donner 3 exemples un petit peu représentatifs de ce qui peut nous arriver comme demande.
Ok. Jean-Luc, vous vouliez intervenir?
Oui, simplement pour renforcer ce que vient de dire Julien, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on travaille en réseau. On n'est pas cloisonné entre nous. Donc, nous, on a les réseaux de voisins, par exemple, donc des associations qui sont comme les nôtres, mais qui sont sur Villefranche, sur vraiment nos voisins géographiques. C'est aussi les liens qu'il y a avec la communauté de communes, pour nous, la communauté Saône-Beaujolais. Mm-hmm. Et puis, ça peut être aussi des installateurs, d'autres entreprises. Et tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que ça nous permet d'aiguiller aussi les demandes des gens en fonction de leurs besoins.
D'accord. Donc, cette mise en réseau, c'est un peu des associations comme Soleil Beaujolais et comme l'Agence locale de transition du Rhône qui effectuent ce travail un peu de maïeutique énergétique.
Oui, je rajouterais que le relais de Alte 69 dans notre communauté de communes, c'est Rénov' en Beaujolais. Et donc, je vous invite, chers auditeurs de notre communauté de communes, à joindre Rénov' en Beaujolais qui va vous faire un diagnostic thermique et qui va vous aider et vous aiguiller sur les endroits de votre maison qui sont prioritaires pour pouvoir économiser de l'énergie.
Julien, vous vouliez rebondir sur cette notion de culpabilité, et on en parlait un peu avant la chanson tout à l'heure. C'est vrai qu'il est demandé beaucoup de choses à nous individuellement, sur ces éco-gestes ou sur ces choses à faire individuellement, alors qu'on voit parfois que d'autres producteurs ou d'autres consommateurs n'agissent pas. Comment réagir face à ça ?
Oui, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile, et quand on renvoie tout un chacun à une action individuelle, on peut comprendre qu'il puisse y avoir, mais pourquoi moi et pas les autres ? J'aimerais peut-être faire un tout petit crochet par l'échelle mondiale, en fait. C'est vrai que souvent, j'entends dire, oui, mais la France ne représente qu'1% des émissions de CO2 au niveau mondial. Pourquoi devrions-nous agir ?
La Chine d'abord.
Voilà, la Chine
on
d'abord.
On l'entend très souvent, oui. Ça.
Alors déjà, il faut prendre conscience qu'à l'échelle planétaire, nous émettons 2 fois plus de CO2 que ce que la Terre peut en absorber. Donc, il faut réduire ces émissions de CO2. Et si on prend la capacité d'absorption du CO2 de la planète et qu'on divise par le nombre d'habitants, on a un droit à émettre du CO2 par habitant. Mmh. Et c'est ce droit ou cet objectif qu'on veut atteindre, c'est 2 tonnes.
C'est ce dont nous parlait Jean-Luc tout à l'heure, du bilan, faire son bilan carbone.
Mmh. Exactement. Voilà. Et donc, ces 2 tonnes, aujourd'hui, il faut le ramener par rapport à ce que consomme en moyenne un Français. Un Français consomme, émet en moyenne 10 tonnes de CO2. Alors, certains émettent moins par choix ou par nécessité. Certains émettent plus, mais en moyenne, on est à 10 tonnes par habitant. Donc, on voit bien que, en tant que Français, on a des efforts à faire. Ensuite, tout ça, c'est bien beau, mais bien évidemment, il faut le ramener à chaque individu, parce que faire un effort, ça nécessite d'agir sur son propre mode de vie, et donc commencer par faire un bilan carbone soi-même pour passer de la moyenne à son cas particulier. Eh bien, c'est intéressant. On nous dit que le bâtiment, c'est près de 20% des émissions de CO2, c'est très majoritairement le cas, mais si on a déjà effectué sa rénovation énergétique, peut-être qu'il y aura d'autres postes prioritaires.
Sur son alimentation ou sa mobilité.
Après, si on ne peut pas agir sur ses transports parce que on ne sait pas le faire, c'est trop compliqué, on peut agir sur le bâtiment, et donc il faut agir sur le bâtiment. Voilà. Déjà, c'était pour remettre un petit peu ça dans l'ordre. Et puis, ces gestes individuels qu'on va faire, ils peuvent rapporter gros à l'échelle individuelle. La somme d'éco-gestes, ça peut représenter, alors ça dépend du prix de l'énergie, mais en général, on a tendance à dire que c'est au moins 400 euros d'économie annuelle, et peut-être plus avec un prix de l'énergie qui augmente. Et ça peut être bien plus si on fait des travaux importants, comme rénover son logement de manière performante pour ne presque plus rien consommer et devenir indépendant des fluctuations du prix de l'énergie.
Après, la rénovation énergétique actuelle, elle peut être. On a vu qu'il y avait. Enfin, vous nous avez pas parlé directement des aides qui existaient, mais nous avez dit qu'il existait un certain nombre d'aides. Ensuite, il y a toujours un reste à charge pour les foyers. Et est-ce que là, il n'y a pas un risque d'inégalité encore entre certains foyers où le reste à charge pourrait être très compliqué à être supporté par des ménages moins aisés, ménages qui souvent sont plus dans des logements qui sont eux-mêmes des passoires thermiques. Et du coup, comment on peut faire avec les réseaux locaux d'associations ou d'entreprises, et comment soit la LTE 69 ou vous à Soleil Beaujolais, vous arrivez à répondre un peu à cette difficulté supplémentaire de reste à charge face à des aides dont vous nous avez dit, Julien, qu'elles étaient très compliquées.
Alors, en ce qui concerne notre territoire, en fait, comme je disais tout à l'heure, comme nous travaillons en réseau, nous, on n'est pas du tout spécialisé dans tout ce qui est aide, subvention, suivant les cas particuliers de chacun. Par contre, Rénov' Beaujolais, dont parlait Pierre tout à l'heure, c'est vraiment l'organisme qui saura répondre systématiquement à toutes ces questions-là.
Julien, vous voulez intervenir ?
Tout à fait. Donc, Rénov' en Beaujolais effectue les mêmes missions que la LTE sur le territoire de la communauté de communes Saône-Beaujolais et va faire ce travail dont je vais vous parler, qui est un travail de cas par cas. En effet, investir dans les énergies renouvelables lorsqu'on est propriétaire, dans les, ou l'efficacité énergétique, pardon, l'isolation de son logement, quand on est propriétaire de son logement, c'est quelque chose d'important qui se planifie. Vous avez parlé du reste à charge. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler sur la trésorerie mensuelle du ménage. Je m'explique. Un ménage qui consomme 2000 euros de fuel par an, s'il investit 50 000 euros dans la rénovation énergétique de son logement pour après ne consommer plus que 300 euros de fuel par an, il va faire une économie annuelle. Mmh. En revanche, il va devoir financer ses 50 000 euros. Il ne les a pas, ces 50 000 euros. Donc, le recours au prêt est souvent indispensable pour faire des travaux massifs de rénovation énergétique de son logement. Donc, le prêt, il est mensualisé, il peut aller jusqu'à 20 ans, il est à taux zéro. Et donc, on va additionner le remboursement du prêt avec la facture énergétique qui est devenue la plus petite possible. Et ensuite, on va déduire les aides financières qui sont normalement proportionnelles aux travaux qu'on a réalisés, mais aussi aux revenus des ménages.
Okay. Voilà. Donc, c'est il y a la performance et les revenus qui sont pris en charge, qui sont pris en compte.
Exactement. Donc, on va voir, est-ce qu'on a atteint l'équilibre en trésorerie et ça, ça dépend du projet, ça dépend des ménages et c'est du cas par cas. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cet accompagnement personnalisé.
Et c'est ce, dont vous, c'est ce que vous proposez à l'agence.
Exactement.
On peut aussi, au-delà de l'efficacité et de la sobriété dont nous vous parlez, on peut aussi parler de diversification de sources d'énergie. C'est un peu le deuxième volet. On a la voix qui perd. C'est un peu le deuxième volet de Soleil Beaujolais. Vous êtes donc une association de sensibilisation, mais vous êtes aussi une société de production d'énergie et d'énergie solaire. La situation aujourd'hui dans le Beaujolais est plutôt bonne en termes de production solaire? Est-ce qu'il y a un beau potentiel? Comment vous avez commencé à travailler ça et comment vous développez ça? Et là, je fais aussi un petit coucou à nos amis de BEC, une société aussi qui s'est récemment créée, une société citoyenne qui s'est récemment créée sur l'agglo de Villefranche et qui a à peu près le même mandat que vous.
Alors, pour la partie production, donc on a été obligé au niveau légal de monter une société. On ne peut pas le faire dans un cadre d'association, puisqu'on va produire, vendre, racheter, etc. Donc, on a monté une société le 17 mai 2021, donc une année après avoir créé l'association. Et on s'est axé aujourd'hui sur la production de photovoltaïque, électricité par photovoltaïque. Aujourd'hui, on n'a pas touché à autre chose. On ne s'est pas intéressé à l'éolien, ni à la biomasse, ni au méthane, ni des choses comme ça. Parce qu'on n'est pas très, très nombreux. On travaille beaucoup, mais on s'est spécialisé un peu là-dedans à ce jour.
D'accord. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver de mettre en place des projets d'installation de panneaux?
Difficile. Ce n'est pas la plus grande difficulté. La plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des installateurs, parce qu'ils sont débordés par les demandes.
D'accord. Donc, c'est ce dont Julien nous parlait sur la nécessaire transition des métiers aussi.
Oui. Et en même temps, ces installateurs sont coincés aussi par l'approvisionnement matériel.
D'accord.
C'est-à-dire que pour trouver des panneaux photovoltaïques aujourd'hui, ce n'est pas simple, ça demande du temps. Donc, ça veut dire que tous les chantiers qu'on peut mettre en route, on a des difficultés pour avoir les devis rapidement. Et après, pour avoir des validations des livraisons, par exemple.
OK. Et du coup, tout ça, c'est ce qu'on a un peu discuté ensemble ce soir. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de fondamental sur ces questions de transition, qui est de se dire comment finalement on arrive à aller plus vite avec des solutions qui existent, mais avec ce nécessaire shift, ce nécessaire changement profond de nos des professionnels et des personnes, enfin des visions politiques qui doivent accompagner ces changements-là. Vous avez récemment rencontré sur le terrain ici le député de la 9e circonscription du Rhône, M. Portier, et puis le sénateur, M. Perru. Vous avez parlé d'énergie, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui ressort ? Est-ce qu'on est à niveau de l'urgence aujourd'hui qui est nécessaire ?
Alors, en ce qui concerne les parlementaires, donc c'est les deux qui nous intéressent à ce jour sur notre territoire, c'est le député et puis le sénateur. Donc on a rencontré ces deux personnes avec Bernard Lemaignan, qui lui est un des responsables aussi de nos voisins, on va dire, qui s'appelle Sévidoré. Mm-hmm. Géographiquement, on se touche. On a déjà travaillé ensemble sur plusieurs idées de mutualisation, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, où sont les limites, des choses comme ça. Et donc, on a eu un premier rendez-vous avec M. Portier, qui était venu nous voir sur des stands qu'on avait montés pour la fête des associations à Belleville, et qui paraissait très intéressé. Il avait posé beaucoup de questions, donc on s'attendait à avoir de nouveau des questions. Alors, on a été assez déçus, en fait, parce que il n'y a plus de questions et on a, nous, posé des questions sur la capacité d'intervenir sur les lois qu'il va voter. C'est son travail aussi de représenter les populations, en particulier donc au niveau de l'éducation. On a parlé d'éducation et donc ça rejoint ce que fait Pierre, pas au quotidien, mais presque, on va dire. Et là, il nous a dit, non, ça ne peut pas rentrer dans le cadre scolaire, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de pouvoir former des bons ingénieurs. Et donc ça doit être en dehors du cadre scolaire. Et donc, il était tout à fait d'accord pour dire que ce qu'on faisait était très bien, il n'y a pas de souci, mais que ça n'appartenait pas au domaine scolaire. Donc c'est le périscolaire. Donc on sait aussi les conditions de travail qu'on peut avoir ou de motivation par rapport au périscolaire. On est vraiment dans autre chose. Donc là, par rapport à cette question, on n'a pas été entendu tellement. Et l'autre chose, c'était le fait que M. Portier a passé beaucoup de temps à essayer de nous convaincre de l'utilité du nucléaire. Alors que nous, on ne cherchait pas à parler de ça spécialement.
Est-ce que, Julien, sur l'adaptation des politiques nationales ou locales, quels sont les leviers dont les citoyens peuvent se saisir ? Est-ce que, au niveau des aides, je pense par exemple à MaPrimeRénov', qui est un peu limitée, est-ce qu'il y a des actions qu'on pourrait mener pour essayer de faire accélérer les choses ?
Alors, en tant que citoyen, il y a différents leviers d'action. Il y a déjà le levier d'action, je dirais, il faut distinguer ce qui est de l'urgence, du court terme, du moyen terme ou du long terme. Par exemple, cet hiver, on nous annonce qu'il va y avoir des réelles tensions dès que le froid va réellement arriver sur le réseau électrique français. C'est pour ça qu'il y a une campagne qui est en route qui s'appelle « Mon Éco-Watt », qui est une météo du réseau électrique français.
C'est une application qu'on peut télécharger hein, sur son téléphone.
Voilà, une application qu'on peut télécharger pour avoir une information qui nous dit « Ah là, attention, demain, pendant la période de pic, le réseau il risque d'être en tension. On vous invite à économiser. » On vous invite à économiser, vous, en tant que particulier, mais on invite aussi les industriels, les grandes entreprises à faire ces économies-là. Ça, c'est important parce que, si chacun fait des économies à son échelle, on va permettre la sécurisation de l'accès à l'électricité pour tous. Si ça n'est pas fait, il risque d'y avoir un réel risque des délestages. Voilà. Donc, télécharger cette application Mon Éco-Watt et essayer de décaler des consommations pour maintenir la sécurité du réseau électrique, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière urgente à une échelle de citoyen. Baisser la température de consigne chez soi et mettre un pull et des chaussettes en laine, y contribue un petit peu aussi. Et après, ce qu'il est urgent de faire, c'est qu'il est urgent de planifier, en fait, de planifier la rénovation énergétique de son logement. Et là, c'est un tout autre degré d'urgence. On est sur du moyen terme. De toute façon, comme il a été dit précédemment, les entreprises ont beaucoup de travail et il est vraiment essentiel de prendre la mesure des travaux à réaliser, de monter son plan de financement, de faire les bons choix techniques. Et là, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Et on voit qu'on est sur un degré d'urgence qui est bien moindre.
Mais c'est quand même assez important de pouvoir vous contacter au plus vite pour pouvoir bénéficier de toutes les mesures d'accompagnement dont vous nous avez parlé un petit peu ce soir. Est-ce qu'il y a des prochaines occasions de pouvoir vous rencontrer sur le terrain, des activités sur lesquelles on pourrait vous rencontrer? Je commence par Soleil Beaujolais, je laisserai la parole ensuite à la LTE 69.
Oui, alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est commencé à être très connue, c'est les fresques du climat. Mm-hmm. Et donc là, nous en organisons une par mois.
Génial.
Donc il suffit d'aller sur le site internet de Soleil Beaujolais, et là, vous avez toutes les dates jusqu'à,
parfait,
pour l'instant, je crois, janvier-février, mais en tout cas...
Et participer à une fresque climat, c'est vraiment un très bon moyen de sensibilisation. Julien, à la LTE, est-ce qu'on peut vous rejoindre quelque part sur une prochaine activité de sensibilisation?
Oui, alors demain soir, il y aura une conférence à Thésée sur la rénovation énergétique des logements. Donc, pourquoi pas vous y rendre. Et sinon, nous menons des actions à l'échelle, enfin, sur tout le département toute l'année. Donc, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, de vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé des différentes manifestations que nous organisons toute l'année.
Eh bien, c'était parfait. Merci beaucoup pour ce plateau ce soir, très masculin, mais ô combien intéressant. On vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Et chers auditeurs et auditrices, n'hésitez absolument pas à aller faire un tour sur les sites internet des organismes de nos invités. On vous met tout ça dans la page de l'émission et sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.
Get her on town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get her on town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. We'll go to jail for us, we'll go to jail for us. We'll get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war. A TV jail for us, a TV jail for us. Such a drama, such a war. A TV jail for us, a TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. And Camel Lens, we go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place in Camel Lens, we go to jail for us, TV jail for us. We get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
100.9 Calade.
Nous venons d'écouter Get Around Town de Revolver et nous allons maintenant écouter Bernard pour sa chronique.
How can we dance when our world is turning? How do we sleep?
Merci Anso et bonsoir à toutes et à tous. Au menu de ce soir, COP27 foot, Qatar et aussi presse, justice, liberté d'expression qui malheureusement chez nous rime avec répression. COP27. La COP27. On en parle de Dunkerque jusqu'à Taman Rasset. On en cause de partout. On en fait tout un plat. Mais ce n'est qu'une farce, ce n'est que du blabla. D'abord, tous ces sponsors, que viennent-ils faire ici ? General Motors, Coca, et pourquoi pas Vinci ? Et puis, me parlez pas de justice climatique, il n'y a pas de remise en cause, et c'est pour ça qu'on tique. Alors non, s'il vous plaît, me parlez plus de COP. À la fin, c'est toujours les pauvres qui écopent. Coupe du monde de foot au Qatar. Ce mondial au Qatar est celui de la honte. Infâme, ignoble, indigne. Faut-il qu'on se raconte à nouveau toutes les crapuleries par lesquelles on gâche le plaisir d'un sport universel ? Corruption, pot de vin, bakchiche de toutes sortes, on peut tout se permettre pourvu que ça rapporte. Ce sont des chèques en rouge et pas des chèques en blanc, rouge de sang humain, et ça, c'est révoltant. Et puis rappelons-le, ce pays médiéval qui à coup de dollars a conquis le mondial est le champion du monde des énergies fossiles. Alors trouver de la thune, c'est pas très difficile. La ruée vers l'or là-bas, c'est pas du cinéma. Donc ça gaze fort pour lui, mais pas pour le climat, ni pour les droits de l'homme, ni pour ceux de la femme. Et les minorités sexuelles, il les condamne. Ah oui, mais nous dit-on, faut pas tout mélanger. Ce bel ordre établi, faut pas le déranger. D'un côté, il y a le sport, de l'autre, la politique. C'est ce que nous dit Macron. Mais nous, on a de l'éthique et on pense au contraire que les deux sont liés. Il y a des principes qu'on ne peut pas oublier. Quand cette politique, c'est celle de l'autruche, c'est carrément l'humain qui vacille, qui trébuche. Fillons comme la peste le mirage qatari, le sport a sa noblesse, mais l'argent l'a pourri. Actualité nationale, l'eau. Maintenant, parlons de l'eau, car c'est un vrai problème à cause duquel, vraiment, il faut changer le système. Plus personne n'échappe désormais aux sécheresses. La planète tout entière est en mode détresse. Et c'est là qu'apparaissent, pas du tout par hasard, des bandes organisées d'infâmes charognards. À Chicago déjà, l'eau est cotée en bourse. En France, des prédateurs sont entrés dans la course. Oui, on les connaît bien, ceux des méga-bassines, qui usent honteusement de pratiques assassines, stockant pour le profit d'une minorité un bien dont nous avons pourtant tous hérité. Et partout, on entend la révolte qui gronde. Des manifs mobilisent de plus en plus de monde. Dans les Deux-Sèvres, la Vienne et plein d'autres endroits se rassemblent celles et ceux qui proclament leur droit à disposer de l'eau pour tous, à parts égales. C'est un enjeu majeur, un droit fondamental. Actualité nationale, justice. En réaction à toutes ces démarches légitimes, l'État oppose un mot, et c'est celui de crime. Même en manifestant en mode pacifiste, nous sommes désormais des éco-terroristes. L'amalgame est voulu. En soufflant sur les braises, le pouvoir n'a qu'un but. C'est bien pour qu'on se taise. Preuve en est ce jugement récent rendu à Niort. 5 militants locaux qui n'avaient eu qu'un tort, celui de manifester contre les méga-bassines, comme des milliers d'autres pas loin de Sainte-Soline, ont été condamnés à des peines de prison. La justice aurait-elle perdu toute sa raison ? On le constate aussi pour les associations qui peuvent être sinédiées, privées de subventions, si elles ne restent pas dans leur cadre bien sage. Devant les tribunaux, la bataille va faire rage. Cette fois, c'est à Poitiers le début d'un combat entre le préfet du coin et Alternativa. On en reparlera encore et puis encore, mais avouez qu'avec ça, on bat tous les records. Actualité nationale, liberté d'expression. Et puis que la réalité dépasse la fiction, un petit mot sur la liberté d'expression. Même si on sait qu'en France, elle est bien mise à mal, il y a des médias qui donnent le moral. Eh bien, même ceux-ci, on veut les faire taire. C'est le cas de Mediapart. Suite à la sombre affaire l'engluant jusqu'au cou, le maire de Saint-Étienne trouve un pied juridique qui aussitôt il dégaine, empêchant le journal de publier la suite de son enquête fort impeccablement construite. L'affaire vient d'être jugée et fort heureusement, le tribunal indique dans son jugement « Mediapart est en droit de publier l'enquête ». Ouf, c'est réconfortant. Ce soir, on fait la fête. Vie locale. Et notre député, est-ce qu'il nous réconforte ? Alors que logiquement, il doit ouvrir des portes, dégager l'horizon, nous sortir du coltard. Voilà qu'il se proclame grand sauveur des fanfares. Normal, me direz-vous, pour un joueur de pipeau. Mais on méritait mieux. Vraiment, on n'a pas de peau. Vie locale encore. Du côté de l'agglo, ça ne change pas beaucoup. Et oui, pour les gravières, on nous refait le coup de l'agrandissement. Cette fois, c'est à Arnas. Alors là, tous ensemble, il faut répondre en masse à l'enquête publique, dire non à Vika pour son projet foireux, lui dire qu'il n'a qu'à respecter la nature, arrêter de détruire, de peler l'eau et l'air, de continuer à nuire à l'environnement, la biodiversité. Ces nouvelles nuisances, on peut les éviter. Tout comme Alima, où un projet stupide mobilise contre lui des citoyens lucides, deux collèges en un seul, c'est l'idée insensée des édiles locaux qui sont loin de penser au bien-être des élèves. Mais fort heureusement, l'union sacrée s'est faite et progressivement la lutte s'intensifie. Courrier, manif, recours, rien ne saurait maintenant en arrêter le cours. Parents, élèves, profs, citoyennes, citoyens, vous êtes assurés de tout notre soutien. Et pour finir, voilà, comme à chaque fois, on me fait des grands signes, à côté en régie, les voilà qui trépignent. J'ai été un peu long. Ah bon, je ne me rends pas compte. Elles tiennent le chrono et d'après leur décompte, mon temps est écoulé. Il faut rendre l'antenne. Alors, bonne fin d'année et à l'année prochaine, qui sera citoyenne, qui sera engagée, que dis-je engagée, qui sera enragée.
Non mais merci Bernard, celle-ci on va se la repasser mais en boucle et en boucle. Le temps nous manque, mais pourtant je voulais vous parler des infos locales dont Bernard vous a parlé, deux consultations qui sont en cours, on vous mettra tout ça sur le lien, de la culture avec le Ciné Alternativa, c'est jeudi prochain, le 8 à 20h au cinéma Les 400 coups, Douce France, un documentaire sur le pouvoir d'agir des jeunes. La séance sera suivie d'un débat avec une enseignante de Claude B et un élu de la mairie de Villefranche, Benoît Froment. Je voulais aussi vous parler d'infos locales et je voulais vous parler des collèges qui respirent. Il y a une mobilisation en cours, vous pouvez aller voir sur leur page Facebook. Et enfin, de l'extension des carrières dont Bernard vous a parlé. Allez répondre à l'enquête publique, vous trouverez tout aussi sur le site d'Alternativa pour vous y aider. Merci à toute l'équipe d'Alternativa qui a préparé cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer. Il y avait ce soir Perrine et Gaëlle sur le dossier énergie et puis Bernard avec sa chronique. Gaëlle à la technique ce soir. Un grand merci à Radio Calade, à Mathieu, sans qui cette modeste mais géniale émission n'aurait pas lieu. On se retrouve le mois prochain pour la nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez nous réécouter sur podcast.
Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Calade.